Alors, cette nuit de la solidarité, ce sera 230 bénévoles, alors qui sont des salariés bénévoles d'associations, qui sont des élus, qui sont des agents de la ville, du CCAS, de la métropole, des services de l'État et des étudiants de l'ITS qui seront présents pour couvrir 74 secteurs de la ville de Tours, de manière à avoir un instant T, un décompte des personnes qui se trouvent en situation de sans-abrisme, donc qui n'ont pas de solution pour dormir le soir, avec un objectif derrière, c'est de trouver des solutions, de proposer des solutions, parce qu'on a réussi à rendre visibles ces invisibles et à connaître nos concitoyens qui dorment encore à la rue aujourd'hui en 2022. Alors, très concrètement, les équipes donc, où on a voulu avoir à la fois des gens d'associations, à la fois des élus, hein, toutes les personnes que j'ai citées juste avant, ces équipes, elles vont parcourir un secteur qui est déterminé. Et dès lors qu'elles vont rencontrer une personne qui leur semble être à la rue, lui faire passer un questionnaire, mais également venir à sa rencontre, venir discuter en proposant. Aussi, café, thé, boissons lyophilisées. On aura évidemment des couvertures de survie. Et on aura aussi avec nous un élément nouveau très important. C'est un guide des premières nécessités que l'on a voulu en plusieurs langues et que l'on sera en mesure de distribuer à ces personnes pour qu'ils aient accès à une information. Comment trouver un hébergement? Où sont les sanitaires les plus proches? Etc. Et ça, c'est aussi une nouveauté pour la ville. Les informations qu'on va avoir, d'abord bien redire qu'elles sont tout à fait confidentielles et qu'elles ne seront pas utilisées pour autre chose que la réponse au problème de sans-abrisme. Effectivement, tous les 5 ans, un recensement de l'INSEE est obligatoire pour savoir quelles sont les personnes qui sont à l'abri. La nuit de la solidarité sera couplée avec cette information de recensement pour l'INSEE. Alors, vous savez que la ville de Tours est engagée dans un plan logement d'abord, pour une mise en œuvre accélérée du plan logement d'abord. Ce plan logement d'abord, il repose sur 2 piliers. L'accès au logement, dès que c'est possible pour les personnes, et un accompagnement sur mesure. Donc nous, ce sur quoi on compte vraiment, c'est aussi pouvoir avoir cet accompagnement sur mesure qui découle de ce qu'on aura identifié comme public et comme besoin pour ces publics. Et donc, c'est aussi l'occasion pour nous d'annoncer la création d'une délégation pour une conseillère municipale déléguée qui travaillera spécifiquement sur cette question du droit au logement et qui sera en appui pour nous permettre d'aller plus vite et de travailler mieux sur l'accès au logement sans condition. Exactement. Alors, sur l'hébergement spécifique, qui est la question que vous posez, on travaille en partenariat avec l'État. Et donc, comme ça a été dit aussi par les services de l'État tout à l'heure, le diagnostic qui va être fait peut nous amener à obtenir des moyens supplémentaires pour répondre à la fois sur des dispositifs d'hébergement, à la fois sur des dispositifs qui sont plus pérennes. Et donc, c'est l'objectif aussi de pouvoir faire ce diagnostic jeudi soir. Alors, ça peut débloquer des budgets qui sont partagés entre l'État et nous. Il faut bien se rappeler que l'État est un acteur majeur. Donc, le diagnostic, il nous permet effectivement de débloquer des moyens supplémentaires. Ça a déjà été le cas en 2019. On avait eu une enquête flash qui avait été réalisée. Ça avait permis d'ouvrir des places en accueil de jour. Ça avait permis aussi de débloquer des moyens qui ont été, par exemple, fléchés sur le dispositif La Maison. Vous savez, le projet de Tiny House qui est actuellement à Saint-Radegonde. L'enquête flash, elle avait donné des besoins. Alors, moi, nous, on n'était pas encore. Exactement. Alors, ça peut être extrêmement difficile. Je pense que de toute façon, c'est extrêmement difficile pour tout le monde de se retrouver au milieu de la nuit face à une personne qui n'a pas de solution pour dormir. Donc, il est indispensable de nous appuyer sur une formation pour pouvoir participer. Nous avons pour ça bénéficié de conseils des associations qui font des maraudes. Et donc, c'était une formation avec des conseils extrêmement pratiques. Comment aborder les gens. Si les gens ne veulent pas répondre au questionnaire, eh ben on n'insiste pas, on les laisse tranquilles, se mettre à hauteur des personnes pour discuter avec eux. Enfin, beaucoup, beaucoup de consignes de bon sens, mais qui étaient indispensables pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de participer à des maraudes.